Bonjour à toutes et à tous, il est 15h et nous sommes ravis, Dominique et moi-même, de vous accueillir pour ce nouveau numéro de Voyage au fil des mots. Bonjour Dominique.
Bonjour Agathe.
Sixième numéro déjà de ton émission. C'est fou, ça passe vraiment très très vite.
Oui, c'est vrai, tout à l'heure on faisait le point avec Agathe et oui, on en est à notre 26e rencontre. Donc.
Et encore une fois, on va se balader aujourd'hui à travers le temps, à travers les continents.
Oui, tout à fait. Et on va démarrer avec l'Asie.
Assez bien le décor pour ce conte oriental qui s'appelle Le couloir de la tentation.
Oui, et qui était donc écrit par Voltaire. C'est un des contes de Voltaire. Comme quoi, tu vois, on voyage un peu avec des auteurs différents chaque fois. Le corridor de la tentation, effectivement. Nabussan, un des meilleurs princes de l'Asie, était toujours trompé et volé. C'était à qui pillerait ses trésors. Le receveur général de l'île de Serendib donnait toujours cet exemple, fidèlement suivi pour les autres. Le roi le savait, il avait changé de trésorier plusieurs fois, mais il n'avait jamais pu changer le mode établi de partager les revenus du roi en deux moitiés inégales, dont la plus petite revenait toujours à sa majesté et la plus grosse aux administrateurs. Le roi Nabussan confia sa peine au grand Zadige. « Vous qui savez tant de belles choses, lui dit-il, ne seriez-vous pas le moyen de me faire trouver un trésorier qui ne me vole point ?»« Assurément, répondit Zadige, je sais une façon infaillible de vous donner un homme qui ait les mains nettes. » Le roi charmé lui demanda en l'embrassant comment il fallait s'y prendre. « Il n'y a, dit Zadige, qu'à faire danser tous ceux qui se présenteront pour la dignité de trésorier. Et celui qui dansera le plus... le plus léger, sera infailliblement le plus honnête homme. « Vous vous moquez de moi, dit le roi. Voilà une plaisante façon de choisir un receveur de mes finances. Quoi ? Vous prétendez que celui qui fera le mieux un entrechat sera le financier le plus intègre et le plus habile ? Je ne vous réponds pas qu'il sera le plus habile, répartit Zadige, mais je vous assure que ce sera indubitablement le plus honnête homme. » Zadige parlait avec tant de confiance que le roi crut qu'il avait quelques secrets surnaturels pour connaître les financiers. « Je n'aime pas le surnaturel, dit Zadige. Si votre majesté veut me laisser faire les preuves que je lui propose, elle sera bien convaincue que mon secret est la chose la plus simple et la plus aisée. » Nabussan fut bien plus étonné d'entendre que ce secret était simple que si on le lui avait donné pour un miracle. « Or bien, dit-il, faites comme vous l'entendrez. » « Laissez-moi faire, dit Zadig, vous gagnerez à cette épreuve plus que vous ne pensez. » Le jour même, il fit publier au nom du roi que tous ceux qui prétendaient à l'emploi de haut receveur des deniers de sa gracieuse majesté Nabussan eussent à se rendre en habit de soie légère le premier de la lune du crocodile dans l'antichambre du roi. Ils s'y rendirent au nombre de 64. On avait fait venir des violons dans un salon voisin, tout était préparé pour le bal, mais la porte de ce salon était fermée et il fallait pour y entrer passer par une petite galerie assez obscure. Un huissier vint chercher et introduire chaque candidat, l'un après l'autre, par ce passage dans lequel on le laissait seul quelques minutes. Le roi, qui avait le mot, avait étalé tous ses trésors dans cette galerie. Lorsque tous les prétendants furent arrivés dans le salon, Sa Majesté ordonna qu'on les finance. Jamais on ne dansa plus pesamment et avec moins de grâce. Ils avaient tous la tête baissée, les reins courbés, les mains collées à leur côté. « Oh, quel fripon !» disait tout bas Zadig. Un seul d'entre eux formait des pas avec agilité, la tête haute, le regard assuré, les bras tendus, le corps droit, le jarret ferme. « Ah, l'honnête homme, le brave homme !» disait Zadige. Le roi embrassa ce bon danseur, le déclara son trésorier, et tous les autres furent punis et taxés avec la plus grande justice du monde. Car chacun, dans le temps qu'il avait été dans la galerie, avait rempli ses poches et pouvait à peine marcher. Le roi fut fâché pour la nature humaine que sur 64 danseurs, il y eut 63 filous. La galerie obscure fut appelée le corridor de la tentation.
Avant de continuer, je voulais souligner un petit détail. On peut peut-être, pour la 30e émission, se cotiser pour t'offrir des marque-pages.
Oh, quelle horreur!
Oui, parce que alors, les auditeurs, effectivement, ne voient pas ce qui se passe dans les studios. Mais Dominique a des marque-pages très, très originaux.
Oui.
Est-ce qu'on dit peut-être?
Bah écoute, tu tant pis, t'as commencé là jusqu'au bout, hein, que t'as été ridicule dans l'être jusqu'au bout.
Je pense que c'est urgent vraiment de se cotiser. Dominique marque ses pages avec des petits bouts de papier toilette. Bon, ceci dit, c'est coloré.
Ils sont très jolis, ils sont roses avec des petites fleurs, ils sont très esthétiques.
Mais bon, voilà, pensez-y si vous souhaitez éventuellement, si vous avez des marque-pages chez vous qui traînent. Vous connaissez l'adresse de Fréquence Mistral, vous les mettez dans notre boîte aux lettres. Moi-même, je vais commencer la collecte
dès
ce soir.
Mais tu t'imagines pas le nombre de livres que je lis. Le nombre de pages que je dois marquer.
Mais c'est judicieux, c'est vrai.
Alors, de temps en temps, ben...
D'autant plus que si
je comprends pas d'ailleurs pourquoi c'est ça, mais... je m'explique pas.
Oui, j'ai une petite idée, mais bon. On va donc reprendre le cours
avec
de
des histoires drôles, justement. Donc, commencé par la drôlerie, donc on va continuer sur la drôlerie, effectivement. Des petites histoires très courtes pour les enfants, justement, vraiment, avec plein d'endroits différents. Hein. Il y a aussi bien un petit peu d'art, des contes arabes ou alors même carrément des siopes fabulistes grecs. Enfin, bref, il y en a un petit peu de tous les genres. Le premier s'appelle « L'avare et les étoiles ». Il était une fois un homme très riche. Il était aussi avare qu'il était riche, ce qui n'était pas peu dire. Il gardait son argent bien à l'abri dans un coffre fermé par 10 serrures dont il avait toujours les clés sur lui. Un jour, un de ses amis vint le trouver. Il avait besoin d'argent et il demanda à l'avare de lui en prêter. Comme c'étaient de vieux et de très bons amis, l'avare ne put le lui refuser. Toutefois, il y mit une condition. « Je te prêterai donc ce que tu as besoin si tu acceptes de passer la nuit en haut de la tour de garde complètement nue et sans rien pour te réchauffer. » Or, on était en plein cœur de l'hiver et les nuits étaient glaciales. De plus, il soufflait ce jour-là une méchante bise. Mais... l'autre accepta, trop heureux de recevoir l'argent qui lui faisait si cruellement défaut. Il resta toute la nuit en plein air et faillit mourir gelé. Toutefois, il survécut à l'épreuve et retourna, le lendemain, chez son ami pour aller chercher ses pièces. « Qu'as-tu vu là-haut? As-tu rencontré quelqu'un ?» demanda l'avare. « Non, je n'ai rien vu, ni rencontré personne. La nuit était bien noire et juste éclairée par les étoiles. Il y avait des étoiles? Alors leur lumière t'a réchauffé? Tu as triché? Cela ne compte pas? Notre marché ne tient plus. » Le jour suivant, l'homme invita l'avare à déjeuner. Celui-ci accepta avec joie, car cela lui faisait économiser un repas. Les deux hommes prirent place, mais il n'y avait rien sur la table, hormis les couverts et les assiettes. « Allons voir si le rôti est cuit, » dit l'ami. L'avare suivit son hôte dans la cuisine, où une marmite était accrochée au plafond. « Comment crois-tu que ce rôti va cuire? Il faut mettre la marmite sur le feu, mais certainement pas la suspendre au plafond. »« Et pourquoi pas ?» lui répliqua son ami. « Si les étoiles qui étaient infiniment loin de moi ont pu me réchauffer, je ne vois pas pourquoi ce rôti ne cuirait pas. »
Thank you.
Voilà, donc on va continuer avec une toute petite histoire encore qui s'intitule « La vieille dame et le guérisseur ». Il était une fois une vieille dame qui souffrait de troubles de la vue. Elle fit venir un guérisseur qui l'examina attentivement. Il affirma pouvoir la guérir à condition qu'elle garde les yeux fermés pendant que le traitement ferait son effet. La vieille dame accepta. Le guérisseur lui prépara alors une potion de sa fabrication. La vieille dame la but en fermant les yeux et garda quelque temps encore les paupières baissées. Pendant ce temps, le bonimenteur lui vola ses tableaux, ses bijoux, ses meubles et ses tapis. La vieille dame finit par recouvrer la vue, mais elle ne voulut jamais payer le charlatan qui l'acquitta en justice. « Non, je ne te paierai pas, car je ne suis pas guérie, dit-elle devant la cour. Je dirais même que mon mal a empiré. Auparavant, je voyais mes meubles, mes tableaux, mes bijoux et mes tapis. À présent, je n'en vois plus un seul. » Cette fois, c'est l'histoire donc de deux enfants avec leur papa. Je pense qu'il y a, s'il y a des papas qui nous écoutent, ils vont se retrouver un petit peu dans cette histoire pour la finalité, disons. Papa devient chèvre. Maman n'est pas là en ce moment. Papa n'arrive que vers 7 heures. Blandine et moi, on s'amuse assez quand on se retrouve seul avec papa. On le fait devenir chèvre. On invente des histoires abominables sur nos journées à l'école. On fait des caprices à table, comme les bébés. On hurle dans notre lit pour qu'il vienne 4 fois nous embrasser. On adore la tête de papa lorsqu'il explose. « Ouh, vous me faites devenir chèvre !» Alors on pouffe sous les draps. Il est 7h10. On frappe à la porte. « Oh, ça doit être papa. C'est Blandine qui va ouvrir. » Mais je l'entends pousser un grand cri. Je me précipite dans l'entrée. Je n'en crois pas mes yeux. Une chèvre. Blandine bégaye. Papa, papa. Et elle se met à pleurer. À force d'embêter papa, bah tu vois, il est devenu chèvre pour de vrai. Moi, j'essaie de ne pas pleurer parce que je suis l'aînée. Cette chèvre ressemble beaucoup trop à papa. Elle a les yeux de papa, la barbiche de papa, la couleur des cheveux de papa. Je lui dis, papa? Et elle tourne son regard vers moi. Je la fais entrer, les larmes dans les yeux. « Tu sais, papa, on ne l'a pas fait exprès. » La chèvre se dirige aussitôt dans la chambre de papa et de maman. « Comme fait papa chaque soir pour se changer ?» Blandine renifle, assise sur un tabouret. « Oh, je vais appeler maman au téléphone. Je vais lui dire de revenir tout de suite. »«
Mais tu ne connais même pas le numéro. »
La chèvre est revenue vers nous. Elle nous regarde. Je murmure. « Si on est des amours avec papa aujourd'hui, peut-être qu'il va reprendre son apparence normale. »«
Moi, j'espère bien !» crie Blandine.
Elle se remet à sangloter.
« Oh, papa !»
Je remplis une casserole d'eau dans la cuisine, je la pose par terre.
« Tiens, papa, c'est pour toi !»
La chèvre boit à grande lampée. Je lui propose ensuite une barre de chocolat croqué et une barre de chocolat au riz. La chèvre n'aime que le chocolat au riz. Ça ne m'étonne pas, papa aussi. Quand elle a fini de goûter, la chèvre va s'installer sur le canapé du salon. Je lui allume la télévision.
« Qu'est-ce que tu préfères regarder, papa? Le jeu du quiproquo ou les informations régionales ?»
On regarde les informations avec papa.
« On va mettre le couvert. On va faire des décorations pour la table. On pourrait préparer un gros gâteau yaourt. »
On s'affaire dans la cuisine. De temps en temps, on jette un coup d'œil dans le salon pour voir si la chèvre se transforme. À 8h10... La chèvre ne s'est toujours pas transformée. Je suis inquiète.
Oh, je vais appeler Madeleine.
Blandine prend l'écouteur. La chèvre bâille tranquillement sur le canapé. Tati Madeleine ne fait que rire en écoutant. Elle ne cesse de répéter.
Mais on n'est pourtant pas le 1er avril.
Je fonds en larmes à mon tour.
Mais ce que je te dis, c'est la vérité, Tati.
Tati Madeleine ne rit plus.
Allez, attendez-moi, je prends ma voiture et j'arrive.
5 minutes plus tard, Tati Madeleine stoppe devant chez nous. Nous l'emmenons sur le champ dans le salon. Tati Madeleine n'en revient pas.
Oh, le portrait de Laurent.
À cet instant, on entend klaxonner. C'est une vieille fourgonnette que je n'ai jamais vue. Papa en descend. Le chauffeur est un homme que je ne connais pas du tout.
Bonsoir Gaël. Bonsoir Blandine. Bonsoir Madeleine, fait papa. Ce jeune homme est le fils de Monsieur Vertier. Oh, il a ramené 3 chèvres des Alpes ce matin. L'une d'elles s'est échappée. Dites-moi par hasard, vous ne l'auriez pas vu passer? Thank you.
Direction la Hongrie maintenant pour un conte tzigane.
Oui, tout à fait. Donc c'est un conte, les conséquences d'une promesse qui était faite. Donc on va voir quelle promesse a été faite et ce qui est arrivé justement à ce pauvre Bobek. Donc je m'excuse pour la prononciation de certains noms de villes.
Non, si tu es impardonnable, tu devrais connaître les prononciations hongroises.
Donc j'ai des vilains marque-pages, j'ai une vilaine prononciation des noms des villes. Aujourd'hui, je suis la vilaine. Écoutez, pardonnez-moi tous. Autrefois, la petite ville de Ortobagi se dressait comme une oasis au milieu de la grande plaine hongroise. Dans la puszta ne poussait que de l'herbe. Là circulaient des troupeaux en liberté dont beaucoup appartenaient à des tziganes nomades. Ceux-ci se rendaient souvent aux foires de la ville, soit pour vendre leurs bêtes, soit pour chercher à se louer pendant quelques mois chez les bourgeois de la ville, le temps de gagner un peu d'argent. C'est au cours de l'une de ces foires que Bobek, le tzigane, rencontra M. Nicolas. Monsieur Nicolas vivait dans une maison cossue au centre de la ville et possédait des terres dans la campagne environnante. Souvent, il allait en cabriolet faire le tour de ses propriétés, mais ce n'était pas tant pour surveiller que pour bavarder avec ses fermiers. Monsieur Nicolas était en effet fort aimable. Longtemps, il avait conduit lui-même Numius, son cheval, mais comme Monsieur Nicolas vieillissait et se sentait moins adroit, il s'était décidé à prendre un cocher. « Choisis un tzigane !» lui avait conseillé Madame Adeline, son épouse. « Les tziganes s'y connaissent à diriger et soigner les chevaux. » Monsieur Nicolas engagea Bobek parce que l'homme lui avait plu immédiatement. Bobek n'était plus tout jeune, mais semblait solide. Son visage noirot s'éclairait dans un regard plein de gaieté. Le tzigane trouva sympathique Monsieur Nicolas. Il accepta d'entrer à son service à condition d'emmener avec lui sa femme Lali. « Qu'à cela ne tienne !» répondit Monsieur Nicolas. « Elle remplacera notre servante qui va bientôt se marier et nous quitter. » Lali et Bobek avaient des enfants, mais ils étaient grands et se débrouillaient tout seuls. Il n'y avait pas à s'occuper d'eux et le couple vint habiter chez ses maîtres. Monsieur Nicolas et son cocher devinrent les meilleurs amis du monde. Ils s'entendaient comme larrons en foire. Sous prétexte d'aller voir la récolte de maïs ou compter les cochons, ils attelaient Numius au carrelier et partait toute une journée entière. Monsieur Nicolas jetait sur ses terres un coup d'œil rapide, histoire de pouvoir dire à sa femme, le soir, qu'il avait accompli ses devoirs de propriétaire. Puis, bien vite, il donnait l'ordre à Bobek de se diriger vers la puszta. Le cheval suivait une piste cahotante. Au bout d'une lieue, le cocher attachait l'attelage à un bouleau et les deux hommes s'enfonçaient dans la plaine herbeuse. Ils regardaient les chevaux courir, véritable tourbillon de tête et de croupe. Des cavaliers en chapeau de feutre poussaient les bêtes vers les abreuvoirs en faisant claquer leurs longs fouets. Monsieur Nicolas admirait leur démarrage foudroyant, leurs brusques arrêts. Bobek était fier des gens de sa race. Lui et son maître écoutaient les tziganes qui, en surveillant les bêtes, jouaient de leur flûte taillée dans une branche de sureau. Les nomades élevaient dans leur campement diverses volailles qui s'éparpillaient alentour pour gratter le sol. « Si j'achetais un poulet ou une oie ?» proposait parfois M. Nicolas, lorsqu'il passait avec son cocher près des tentes et des roulottes. Bobek ne répondait jamais non. Il se chargeait d'embrocher l'animal et de le rôtir au-dessus d'un feu de bois. Puis, maître et serviteur mangeaient l'oie ou le poulet. Avec les doigts, bien sûr. La graisse coulait dans la barbe des deux gourmands. Ils allaient se rincer la figure et les mains au ruisseau le plus proche et, là, s'amusaient à chatouiller les grenouilles avec un brin d'herbe. Plouc ! Plouc ! Les batraciens piquaient une tête dans l'eau pour fuir les farceurs. Les compères se racontaient des histoires drôles qui les faisaient pouffer. Ils revenaient, le soir, l'œil vif et le rire aux lèvres. Naturellement, l'heure du repas était passée depuis longtemps. Madame Adeline fulminait. « D'où sortez-vous encore tous les deux? Vous sentez le crottin et vos bottes sont couvertes de boue. Douce chérie, allez, ne nous gronde pas, nous avons faim. Fais-nous vite apporter quelques bons plats. Pour s'influer le service, je mangerai avec Bobek à la cuisine. » Madame Adeline était furieuse. Depuis quand un maître prenait-il ses repas avec un domestique? Elle contenait cependant sa mauvaise humeur. Comme son vieux mari la comblait de cadeaux à la moindre occasion, elle évitait de lui faire des scènes. Lali servait aux deux hommes une appétissante mamaliga, bouillie de farine et de fromage qui faisait leur délice. La servante était fière de son Bobek, si beau dans son costume de cocher tzigane. Culotte rouge, boléro, foulard autour du cou. « Tant pis pour les bottes sales, elle les décottera.
Ce n'était pas une affaire. Cependant, pour ne pas déplaire à sa maîtresse, elle faisait mine d'être fâchée, elle aussi, à cause du retard et de la mauvaise odeur de Bobek et de Monsieur Nicolas. Un matin, M. Nicolas dit à son cocher « Je voudrais que nous allions à Budapest pour une affaire d'argent qui me tient à cœur. Oh, je n'ai déjà que trop tardé. Mon maître, vous oubliez que c'est aujourd'hui votre anniversaire. La maîtresse a préparé une petite fête en l'honneur de vos 90 printemps. » M. Nicolas se frappa le front. Oh, c'est vrai. Ben, en ce cas, nous ne partirons que demain. » Mais il n'y eut pas de lendemain pour M. Nicolas. Il passa brusquement de vie à trépas, alors qu'il reprenait pour la quatrième fois de la galette aux raisins. Son épouse le fit enterrer, selon la coutume, dans la crypte sous la maison, où se trouvaient les tombeaux des défunts de la famille. Bobek pleura de tout son cœur et de tous ses yeux. Deux nuits s'écoulèrent. La troisième, des bruits étranges réveillèrent toute la maisonnée. Ils venaient de la crypte. On aurait dit des coups de pioche frappant le sol. Quand 1 heure du matin sonna aux horloges de Hortapaki, immédiatement les coups cessèrent. Tout rentra dans le silence. La nuit suivante, le tapage recommença. Madame Adeline, réveillée en sursaut et mourant de peur, resta enfermée dans sa chambre. Lali se cacha sous le drap. Mais Bobek, muni d'une chandelle, descendit au sous-sol et colla son oreille à la porte de la crypte. Il entendit des soupirs et des gémissements semblables à ceux de la vieille. Il voulut ouvrir. Impossible. La porte était bloquée de l'intérieur. Il remonta à tâtons dans le noir et alla avertir Madame Adeline. « Maîtresse, maîtresse, c'est le maître qui revient. Je l'ai entendu se plaindre. »« Tu en es sûre ? Absolument !» Dès le lendemain, la veuve fit dire 3 messes pour le repos de l'âme de son mari. Chaque soir, elle-même et ses serviteurs prièrent devant les icônes. Il s'adressait à Dieu, à Saint Nicolas, patron du défunt, et aussi à Sainte Mercredi et à Sainte Vendredi. La première avait béni l'entrée de M. Nicolas dans la vie et la seconde sa sortie. Hélas, mais ses prières ne servirent à rien. Le tapage nocturne continua. Madame Adeline s'énervait de plus en plus. Elle en arrivait à penser que son cher Nicolas était devenu bien agaçant. « Les défunts sont des défunts. Ils devraient laisser les vivants dormir, » déclara-t-elle avec colère. « Je me demande ce qui tourmente ainsi notre pauvre maître, » se désolait Lali. « Qu'a-t-il donc fait au ciel pour que le ciel lui refuse la paix ?»« Cette nuit, nous le saurons, » répondit Bobek. « Maîtresse, ordonnez seulement que le menuisier me fabrique une grande caisse dans laquelle je pourrai m'étendre. Nous la déposerons dans la crypte et je guetterai. » Madame Adeline s'empressa d'accepter la proposition du cocher. Elle passa commande au menuisier. Dès le soir, il livra la caisse. Bobek et Lali la placèrent dans la crypte, à côté du tombeau de M. Nicolas. Après avoir bien mangé et bien bu pour se donner des forces, le cocher s'allongea dans la caisse, un briquet dans la main. Il faisait très noir. Des araignées couraient sur le visage de Bobek. Une souris glissa dans le silence. Les horloges de Hortogabi égrenèrent 12 coups. Brusquement, la dalle qui fermait le tombeau de M. Nicolas se souleva et grinça. Bobek se bondit de sa caisse, alluma son briquet et se trouva, mais nez à nez avec M. Nicolas. Le maître, crâne chauve et barbe blanche, apparut à son cocher tel que celui-ci l'avait vu pour la dernière fois le jour de l'anniversaire. Mais ses vêtements étaient fripés. Que fais-tu là, Bobec ? S'étonna le revenant.
Je suis mort hier. La maîtresse vient de me déposer dans la crypte en attendant demain. Demain, en effet, aura lieu la cérémonie funèbre. On m'enterrera à côté de votre tombeau. La maîtresse, sachant combien je vous aimais, en a descendu ainsi.
Oh, bah c'est une bonne idée, mon ami. Mais que t'est-il arrivé ? Tu n'es pas encore vieux.
Un accident, un coup de pied de cheval.
Et vous, mon maître, comment allez-vous ? Comment se fait-il que vous reveniez ici chaque nuit ?
Oh, c'est à cause de cette affaire d'argent dont je t'avais parlé.
Tu te souviens, nous devions aller à Budapest.
Ah oui, je me souviens. Une affaire, disiez-vous, qui vous tenait à cœur.
En effet,
voici quelques années. Et M. Nicolas se mit à raconter. Voici quelques années, donc, juste avant qu'il ne prît Bobec comme cocher, l'un de ses amis, les amis de M. Nicolas qui demeuraient comme lui à Ortogabi, l'appela à son chevet. Il se préparait à rendre l'âme et lui demanda un service. Remettre à son neveu, un jeune orphelin vivant à Budapest, le coffret de pièces d'or qu'il lui destinait. M. Nicolas promit et prit le coffret. Son ami mourut tranquille. C'est alors que M. Nicolas commis une très très mauvaise action.
Oh, j'ai honte, Bobec.
Poursuivez votre histoire, maître. À tout péché, miséricorde. M. Nicolas soupira et continua son récit. Cette année-là, les récoltes avaient été mauvaises. Je craignais de manquer d'argent. Aussi, j'ai enterré le coffret dans un coin de la crypte, me disant que je puiserais dedans si besoin était. En réalité, mes affaires se sont arrangées et je n'ai pas touché aux pièces d'or. Chaque semaine, je me promettais d'aller à Budapest. Mais je manquais de volonté. J'étais négligent. Et comme tu venais d'entrer à mon service, je préférais aller dans la puzza en ta compagnie pour voir courir les chevaux et manger l'oie rôtie. Bref, M. Nicolas avait fini par oublier le coffret et du même coup sa promesse. Le souvenir lui en était revenu quelques jours avant sa mort, mais trop tard. Dieu ne me veut pas dans son paradis tant que je n'aurai pas réparé ma faute. Il me faut retrouver cet or et m'arranger pour que le faire parvenir jusqu'au jeune homme à Budapest. C'est pourquoi il revenait chaque nuit dans le sous-sol. Il commençait par aller prendre une pioche dans la cave, puis retournait dans la crypte, en bloquait l'entrée avec la dalle de son tombeau pour que personne ne vînt le surprendre, et ensuite il se mettait à creuser la terre. Malheureusement, je ne sais plus dans lequel des quatre coins de la crypte j'ai caché le coffret. Je me souviens de l'avoir enfoui profondément. D'autre part, je suis vieux et je ne vais pas vite. De plus, à 1 heure, je dois réintégrer mon tombeau. Voilà pourquoi mes recherches n'ont pas encore abouti. Bobec prit les mains de son maître. « Ne vous inquiétez plus, je vais vous aider. Allons chercher les pioches. » Ils se dirigèrent vers la cave, près de la crypte, où l'on rangeait les outils. Bobec s'aperçut que son maître était bien un fantôme car il passa à travers les trous de serrure. Lui, Bobec, ouvrait et refermait les portes comme tout homme vivant. Cela ne manqua pas de surprendre M. Nicolas.
« Mon ami, j'ai l'impression que tu me mens. Tu n'es pas mort. »
« Si, mon maître, mais il n'y a pas très longtemps. Je n'ai pas encore pris les habitudes des fantômes. » Dans la cave s'alignaient quelques bonnes bouteilles des meilleurs crus de Hongrie.
« Bobec, buvons un coup avant de nous mettre au travail. Chacun débouchera une bouteille et bu au goulot.
À ta santé, à la vôtre, maître !»
Le vin coulait, frais dans leur gorge. Chacun vida sa bouteille jusqu'à la dernière goutte. Une folle gaieté s'empara des deux hommes. Ils se mirent à chanter, à danser en claquant des mains.
« Bobec, avant d'aller piocher, si nous faisions peur aux femmes, tu te souviens comme elles nous grondaient quand nous rentrions tard ?»«
Oh, leurs reproches, je les ai encore sur le cœur. Oui, maître, allons faire peur aux femmes !»
Ils bondirent hors de la cave, traversèrent en courant la buanderie, saisirent au passage 2 draps blancs qui séchaient, s'entortillèrent dedans. Ils se précipitèrent dans l'escalier, dont ils grimpèrent les marches 4 à 4 en sifflant et hurlant.
Adeline et Lali, glacées de peur, s'étaient réfugiées dans le salon. Elles tremblaient comme des feuilles au bout de branches, un jour de bourrasque.
Alors, collant un œil au trou de la serrure, elles virent déambuler les deux fantômes dans le couloir, puis disparaître en agitant les bras comme des ailes. Un moment encore, elles entendirent leur « ouh » semblable au cri de la chouette, puis le calme revint. Les compères avaient regagné la crypte et, munis chacun d'une pioche, se préparaient à creuser. Mais à cet instant, 1 heure sonna.
« Déjà !» s'écria maître Nicolas.
En hâte, il jeta son outil et sauta dans son tombeau. Bobec avait fait semblant de le suivre et de se précipiter dans sa caisse. Mais une fois la dalle du tombeau rabattue sur son maître, il sortit, monta l'étage et rejoignit Madame Adeline et Lali encore frissonnante.
Il se garda bien de leur raconter toute la vérité. Et même, il mentit pour que les deux femmes ne lui fassent pas d'histoire. Il soutint que les fantômes qu'elles affirmaient avoir vus et entendus n'existaient que dans leur imagination. « C'est la peur qui vous a fait croire à tout cela. Mais moi, en revanche, j'ai parlé avec l'esprit du maître dans la crypte. Voici ce qui le trouble et l'empêche de jouir du repos éternel. » Il répéta ce que lui avait confié M. Nicolas. Il donna les raisons qui le faisaient revenir chaque nuit et dit que son maître désirait réparer sa mauvaise action. Le lendemain, Madame Adeline demanda à Bobek de creuser le sol de la crypte. Le coffret plein de pièces fut retrouvé. La maîtresse envoya le cocher à Budapest pour rechercher l'orphelin. Bobek le découvrit dans un quartier pauvre de la grande ville et lui remit le trésor de son oncle. Puis il revint chez Madame Adeline. Désormais, les nuits s'écoulèrent, tranquilles, dans la maison de Hortogabi. Sa faute réparée, M. Nicolas put goûter la paix en attendant que son fidèle cocher, Bobek le Tzigane, vint un jour le rejoindre dans le royaume des bienheureux.
Question maintenant de sacrifice et de partage.
Oui, l'abnégation d'une petite fille, dans une histoire qui s'appelle « Le caillou de lumière ». Voici environ 7 siècles, des Tziganes errants de la tribu des Tchourari se fixèrent sur les bords du lac Balaton. On disait que le sable de ses rives contenait des pépites d'or. Les Tziganes installèrent à cet endroit leur tente conique qu'ils recouvraient de feuillage pour être mieux isolés du froid et de la pluie. Les hommes se mirent à passer le sable à travers des tamis qu'ils fabriquaient eux-mêmes avec l'espoir de découvrir le précieux métal. En vain. De l'or, ils n'en trouvèrent pas. Cependant, ils restèrent, élevant des chèvres, des chevaux et de la volaille. Le lac leur donnait des poissons et la forêt proche du gibier ainsi que du bois pour se chauffer l'hiver devant les tentes et faire cuire la nourriture. L'un de ces Tziganes, Mitrache, s'entêtait à chercher de l'or dans le sable. Un matin, il aperçut, au milieu des graviers, non pas une pépite, mais un magnifique caillou transparent. Jamais il n'en avait vu d'aussi beau, d'aussi étrange. Gros comme un œuf de poule faisane, plus dur encore que le cristal de roche, il brillait de 1000 feux. Il semblait absorber toute la lumière du printemps. Mitrache le tournait et le retournait dans sa main, surpris par ses reflets. « Oh, allez, je le donnerai à mes enfants, ils seront heureux. » Mitrache avait une dizaine de filles et de garçons, tous plus bruns les uns que les autres, avec des cheveux crépus, des yeux noirs allongés et des jambes maigres. Les parents aimaient leurs enfants, mais ne pouvaient pas les gâter car la famille avait juste de quoi vivre. Le caillou de lumière sembla un somptueux cadeau à ces petits romanichels. Chacun, à son tour, le tint dans sa paume et au bout de ses doigts, dans un rayon de soleil qui attisait ses feux. Le soir, il déposait la pierre merveilleuse dans un petit pot à l'intérieur de la tente. Leur admiration dura plusieurs semaines, puis, comme tous les enfants du monde, ils se lassèrent. « Jouons avec autre chose !» déclara Odilio, l'aîné des garçons. « J'ai découvert de grands roseaux pour fabriquer des cannes à pêche. Donnons le caillou à Popelka !» La petite Popelka, la dernière née, avait 5 ans. Le surnom de Popelka, qui signifie « Cendrillon », lui avait été attribué par ses frères et sœurs, car, au lieu de courir les chemins comme eux, elle préférait rester devant la tente à remuer les braises du feu et à les dégager de leurs cendres. Popelka fut ravie d'hériter du caillou. « Je vois dedans 1000 petits soleils et 1000 petites étoiles qui dansent », affirmait-elle. La fillette refermait sa menotte crasseuse sur son trésor, serrant les doigts pour ne pas le perdre. L'été suivant, la sécheresse fut si grande que l'herbe se fana dans la plaine. Les bêtes dépérirent. Les Tziganes durent vendre leurs chevaux trop maigres à bas prix ou les tuer pour les manger ainsi que leurs chèvres. Quand vint l'hiver, Mitrache et sa famille se retrouvèrent fort dépourvus. Or, il arriva qu'un riche marchand venu de la ville de Tiani traversa le campement.
Il vit la petite Popelka qui s'amusait à lancer en l'air son caillou et à le rattraper. Elle sautait tantôt sur un pied, tantôt sur l'autre pour se réchauffer car le vent du nord soufflait, le gel faisait craquer les branches. Les guenilles que portait la fillette ne la protégeaient guère. « Veux-tu me montrer cette pierre ?» demanda le marchand. Popelka lui tendit son caillou. L'homme l'examina longuement. « Va chercher ton père, petite !» Popelka obéit et revint aussitôt avec Mitrache. « Mon brave, je te donne 50 pièces d'or en échange de cette pierre. » « Le caillou aurait-il donc plus de valeur que je ne pensais ?» se dit Mitrache. Et il décida de faire monter le prix. « 50 pièces, c'est peu, marchand !»«
Eh bien, 60 !»
Mitrache fit une grimace. « Mettons 70 !» poursuivit l'homme de Tiani. « Il s'agit sans doute d'une pierre précieuse, » songea encore le tzigane. Et il en demanda 100 pièces. «
Top là, j'accepte. Le marché est conclu, » répondit le marchand.
Il allait glisser la pierre dans sa poche et sortir une bourse qu'il portait sous sa cape. Mais la petite Popelka hurla soudain.
« Je veux mon caillou, il est à moi, c'est mon caillou plein d'étoiles !»
Comme son père et le marchand, en train de régler leurs affaires, faisaient mine de ne pas l'entendre, elle, si douce d'habitude, se mit à taper du puits, puis à se rouler par terre.
« C'est mon caillou, petit père, tu me l'avais donné !»
Mitrache essaya de raisonner sa fille. « Mais si je le vends, j'achèterai de la farine et du miel. Tu sais que cette année, nous n'avons pas beaucoup de nourriture. » « Je te paierai aussi un cotillon rouge et un bonnet de poils. » Mais Popelka continua à sangloter et à trembler. Mitrache, qui ne l'avait jamais vu dans cet état, prit peur. Sa Popelka n'allait tout de même pas mourir de convulsions sous ses yeux. Ce n'était pas une enfant capricieuse. Si elle faisait une scène pareille, c'est qu'elle y tenait vraiment à son caillou, qu'elle voyait vraiment dans ses reflets 1000 étoiles et 1000 soleils. Mitrache était un bon père. «
Marchand, rends-moi cette pierre, voici ton or. »« Tzigane, mais tu es fou !» « Ta famille crève de faim et de froid. Cet or que je t'offre vient à point. Donne-lui plutôt une bonne fessée à ta fille. »
Chez nous, on ne bat pas les enfants. Et Popelka est trop jeune pour comprendre notre misère, même si elle en souffre. Qu'elle garde son trésor, et toi, marchand, reprends tes pièces. L'homme de Tiani était furieux, mais il fut bien obligé de céder. Ayant remis son or dans sa bourse, d'un geste de rage, il lança la pierre au nez de Mitrache. Popelka bondit et la rattrapa au vol. Un grand sourire illumina son visage barbouillé de larmes. Les jours suivants, Mitrache réfléchit. Pour que le marchand n'ait pas hésité à offrir tout le contenu de sa bourse, pour qu'il ait été ensuite si en colère au moment de rendre la pierre, c'est que cette pierre était vraiment précieuse. Soudain, il eut une illumination. Mais c'est un diamant! Il n'en avait jamais tenu dans sa main auparavant, mais une fois qu'il était allé à Tiani, il avait vu, et s'en souvenait maintenant, des colliers de brillants autour du cou de quelques femmes riches. Ces brillants ressemblaient à la pierre que Popelka, mais était beaucoup plus petit. « Popelka, dit-il à sa fille, prends bien soin de ton caillou de lumière, surtout ne le perds pas, garde-le toujours. » Il fabriqua un petit coffret en osier où l'enfant put déposer son trésor et, comme le tzigane avait du bon sens, il veilla lui-même à ce que l'enfant n'égara pas le précieux diamant. Après la sécheresse, un autre malheur fondit sur le pays, la guerre. Les Tatars, ces cavaliers farouches, armés d'arcs et de flèches, envahirent la Hongrie. Pillards, assoiffés de sang, ils semèrent la terreur dans toute la région qu'ils traversaient. Apprenant qu'ils se dirigeaient vers le lac Balaton, les tziganes replièrent leurs tentes, attelèrent leurs chariots et fuirent vers le nord. Des mois s'écoulèrent. Enfin, après une longue lutte, le roi Béla de Hongrie et son armée réussirent à chasser les assaillants. Les cruels Tatars durent abandonner leur butin et repasser la frontière. Ils laissaient derrière eux des villes dévastées, des récoltes saccagées et beaucoup de misère. Le roi Béla fit appel à toute la population, magyars ou tziganes, afin de relever le pays. Que ceux qui peuvent donner donnent pour reconstruire, acheter du nouveau bétail et fertiliser les terres. Mitrache et Satibu étaient restés dans la région de Torna, au nord de la Hongrie, c'est-à-dire là où ils s'étaient installés après avoir fui les rives du lac Balaton, au moment de l'invasion des Tatars. Ils possédaient à nouveau un petit troupeau de chèvres et quelques chevaux. Bon, ils n'étaient pas riches et vivaient toujours sous des tentes, mais ils parvenaient à manger à leur faim. La petite Popelka avait maintenant 8 ans. Elle écoutait gravement lorsque son père et ses oncles parlaient de la triste situation de la Hongrie. Popelka ne comprenait pas tout, mais elle avait retenu une chose. Il y avait eu la guerre, elle avait apporté des malheurs. Il se trouvait dans le pays des gens plus à plaindre encore que les Tziganes parce que les Tatars avaient incendié leurs maisons et leurs champs, égorgé leurs vaches et leurs porcs. Ces gens-là erraient le ventre vide. « Petit père, est-il vrai que mon caillou représente beaucoup de pièces d'or ? Plus encore que ne m'en offrait le marchand de Tiani. Alors, je veux le donner au roi Béla pour l'aider à relever la Hongrie. » La mère protesta. « Popelka, nous sommes des Tziganes. Nous connaissons souvent la misère. » Garde cette pierre précieuse pour l'échanger contre de l'argent ou de la nourriture, les jours où nous n'aurons faim. » Mitrache, à son tour, remarqua. « Tu as failli mourir de rage lorsque je voulais vendre ton caillou au marchand de Tiani, et maintenant tu parles de t'en séparer. J'étais trop petite pour comprendre, petit père. » Les parents de Popelka décidèrent de consulter Jansi, l'aïeul de la tribu. Il avait une longue vie derrière lui et possédait l'expérience et la sagesse. De plus, il savait s'exprimer. « Père de notre père, » dit Mitrache, « devons-nous donner cette pierre précieuse au roi Béla ?» Jansi tira sur la pointe de sa barbe qui lui arrivait au genou. Il n'hésita guère. « Oui, Mitrache, la Hongrie, jadis, nous accueillit et nous permit de vivre sur son sol. Nous aussi, les Tziganes, nous faisons partie de son histoire. Son roi n'est pas de notre race, mais il est quand même maintenant notre roi. Ta fille a raison. Va porter ce trésor au souverain. » Mitrache partit pour Buda. Le roi l'accueillit avec émotion. « Merci, merci. Ce diamant, je le ferai parvenir à de riches étrangers qui nous fourniront en échange l'huile, le blé, la viande dont notre population a besoin. Que le ciel bénisse ta fille Popelka et ta famille et toi-même et sache qu'un bienfait n'est jamais perdu. » Des jours meilleurs revinrent pour la Hongrie. Le pays, peu à peu, se releva de ses ruines. Les vergers et les roses refleurirent, les grandes prairies devinrent à nouveau le paradis de juments fougueuses et de leurs poulains. 3 années passèrent. Un matin, alors que l'herbe reverdissait autour du campement des Tchourari, on vit s'avancer parmi les chèvres un cavalier casqué, monté sur un cheval bai et suivi d'une escorte. Il se fit indiquer la tente de Mitrache. Popelka venait d'avoir 11 ans. Selon son habitude, elle retirait les braises du sang du feu et attisait souvent en soufflant dessus. Elle n'a jamais vu le roi. Pourtant, quand le cavalier fut en face d'elle, la fillette devina que cet homme au fier visage était le souverain. Mitrache et d'autres Tziganes accouraient. « Mes amis, dit le roi Béla, notre pays a retrouvé sa prospérité. Et je ne suis pas un ingrat. Je n'ai pas oublié, Mitrache, le geste généreux de ta fille. Son sacrifice a contribué au relèvement de nos ruines. Je possède de bonnes terres à Torna. Mitrache et vous autres de sa tribu, vous pouvez vous y installer. Je vous les donne. Nul ne pourra jamais vous en chasser. Si vous le désirez, vous y construirez des chaumières selon votre humeur et vos goûts. L'herbe, là-bas, est plus abondante qu'ici. Les sources ne se tarissent jamais. Quant à toi, Popelka, ouvre ta main. » Elle obéit. Elle venait de remuer les cendres et ses doigts n'étaient pas propres, mais les enfants Tziganes n'attachent pas d'importance à ce genre de détails. Quand elle regarda ce que le roi venait de déposer au creux de sa paume, elle vit briller un anneau d'or qui portait une pierre transparente au reflet d'arc-en-ciel. C'était un diamant, beaucoup plus petit, certes, que celui qu'elle avait offert pour sauver le pays, mais aussi pur et taillé avec art. Popelka glissa la bague à son 4e doigt. Dans ce nouveau caillou de lumière, elle vit étaler 1000 étoiles et 1000 soleils.
Et voilà, encore un beau voyage pour ce 26e numéro. J'espère que je ne t'ai pas trop rendu chèvre avec, avec mes petites anecdotes douteuses sur tes jolis marque-pages. En tout cas, on te retrouve prochainement avec... tu peux peut-être nous donner un petit avant-goût de...
Une piste sur le
contenu de ta prochaine émission.
Eh bien, j'ai envie de... Voilà, puisque tu m'as rendu chèvre, moi, je vais essayer de retranscrire la peur. C'est-à-dire, je vais essayer de faire une émission sur la peur, la vraie peur, celle qui glace et qui fait battre le cœur. Et ainsi qu'encore des histoires de fantômes et de revenants. On va être sur le même thème, de cette tension... Hein, que l'on a avec ces sujets souvent.
Chic, j'aime bien avoir peur. Et écoute, je vais te souhaiter une excellente semaine.
C'est gentil.
Et on se retrouve très très
bientôt
sur Fréquence Mistral. Merci encore
aux
Dominique.
Auditeurs. À bientôt.
À bientôt.
Au revoir.